Alors pour l'instant, ce titre, il ne vous dit pas grand-chose. Mais avec l'aide de Dieu, je m'attends à ce que ça vous parle. Alors 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, nous sommes en train d'aborder le sujet de la foi. Nous avons vu que nous sommes en train de voir que la foi, c'est avoir confiance, non pas en une méthode, non pas en un livre, mais en une personne, en Dieu. La première chose qu'il faut savoir, c'est ça n'est pas tellement ce qui est important, l'amour que l'on a pour Dieu, mais le plus important, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Si on peut comprendre à quel point Dieu nous aime, alors nous allons avoir confiance en lui pour qu'il nous sorte de situations qui sont difficiles, déplaisantes. Nous avons vu également que, oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi de nous faire collaborer. Il a choisi de coopérer avec nous, si bien que si nous ne coopérons pas, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Et tout cela, c'est sur Internet, vous pouvez réécouter les messages. Aujourd'hui, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, il est dit ainsi donc, « Nous sommes toujours pleins de confiance. » Il fallait de l'audace à l'apôtre Paul pour dire, non pas nous avons, nous sommes pleins de confiance, mais nous sommes toujours. L'apôtre Paul, quand il a écrit cela, ça n'est pas parce qu'il avait une vie qui était parsemée de pétales de roses. Paul est un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a rencontré des oppositions que ni vous ni moi ne connaîtrons jamais, parce qu'il était celui qui allait être utilisé par Dieu pour nous donner les trois quarts du Nouveau Testament. Il est dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Si l'apôtre Paul a écrit ça et qu'aujourd'hui nous pouvons le lire, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons le vivre. Pas quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, nous sommes quand même pleins de confiance. Il dit, et nous savons qu'en demeurant dans ce cœur, nous demeurons loin du Seigneur. J'aurais besoin de la suite. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible nous dit ici, vous avez reçu les images ? D'accord. La Bible nous dit ici, une autre version dit, nous cheminons non par la foi, mais par la vue. C'est-à-dire que pour un chrétien né de nouveau, il y a une manière de vivre qui est différente de ce qu'il avait comme manière de vivre sans Christ. Et il dit, maintenant que nous avons Christ, eh bien, nous sommes toujours pleins de confiance parce que nous marchons d'après la foi, nous vivons d'après la foi, nous décidons d'après la foi. C'est-à-dire, nous décidons en fonction de la confiance que nous avons en un Dieu que nous connaissons. Il y a une autre manière de vivre, c'est de vivre par la vue, c'est-à-dire de ne croire que ce que l'on voit, de ne décider qu'en fonction de ce que l'on voit, de ne choisir qu'en fonction de ce que l'on voit. Mais il arrive que ce que Dieu dise soit contraire à ce que l'on voit. Par exemple, un malade, Dieu dit, par les meurtrissures, tu as été guéri. Or, ce qu'il voit peut-être dans le miroir, c'est un bleu ici ou là. Il dit, comment est-ce que je peux être guéri alors que ce que je vois est contraire à ce que mon Dieu me dit? Pourquoi? Parce que Dieu a toujours raison. Et quand on croit ce que Dieu dit, alors ce que l'on voit finira par s'aligner sur ce que Dieu dit. Mais là, ce que je veux mettre ici comme accent, c'est le fait qu'il existe deux manières de vivre. Dans Romains chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 12 à 14, « Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non envers la chair, pas pour vivre selon la chair, c'est-à-dire pas pour vivre selon mes cinq sens. » Pourquoi ? Parce qu'il y a des réalités qui ne sont pas perceptibles à mes cinq sens. Il y a des tas de choses qui existent et que mes cinq sens ne peuvent pas percevoir, ne peuvent pas sentir. Est-ce que vous pouvez voir les anges maintenant? Alors, come in. Mettez sur pause l'enregistrement. Il y a deux manières de vivre. On peut vivre comme si on n'avait pas Dieu dans notre vie, uniquement en fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on sent, de ce que l'on touche, de ce que l'on... qu'est-ce que les cinquième sens entend ? Goûter. On peut vivre en fonction de cela, ou alors on peut vivre par la foi, c'est-à-dire en préférant croire ce que Dieu dit. Donc c'est important de savoir qu'il y a deux manières de vivre. J'aimerais voir ce verset avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour que nous apprenions à vivre par la foi. Très souvent, les gens disent « je crois », mais ils ne comprennent pas que « je crois », ça n'est pas synonyme, « je crois » n'est pas synonyme de « je suppose ».« Je crois » n'est pas synonyme de « je devine ». « Je crois » est une certitude. Vous savez, quelquefois, les gens disent « alors, tu crois qu'il est bon, ce fromage ?»« Ouais, je crois », ça veut dire « j'espère, je pense, je présume, je devine que ». D'autres le disent « ah, moi, je crois que demain, il va pleuvoir ». Mais ils n'ont aucune certitude. Et juste, ils émettent une suggestion. Or, quand on dit « je crois », en langage biblique, ça veut dire « j'ai la certitude, j'ai l'assurance. Pourquoi ? Parce que notre assurance est en Dieu. Voilà, je sais ce que Dieu est capable de faire, je sais qu'il veut le faire pour moi, alors j'ai la certitude qu'il va le faire. Oui, mais tu ne le vois pas encore, ça n'a aucune importance. Je sais que Dieu m'a promis et il va le faire. Le problème, c'est que très souvent, quand on a une promesse de Dieu, on essaie de se figurer comment il va le faire. Mes amis, ça ne nous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Si Dieu me dit, demain je t'amène en Asie, il me le dit. Comment il le fait, j'en sais rien. D'où vient l'argent, j'en sais rien. Comment j'y vais, j'en sais rien. Ça n'a aucune importance. Mais on se fait avoir parce qu'on essaie de remplir tous les blancs. On essaie d'avoir des détails sur la manière dont Dieu va s'y prendre, et résultat, comme on ne sait pas tout, on se fait avoir. On dit « oui, mais je ne vois pas ça, comment pourrait-il le faire ? Parce que je ne le vois pas, ça n'a aucune importance. » On marche par la foi et non par la vue. C'est un choix et c'est un style de vie. Vous avez trouvé 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il est dit « que le Dieu de paix vous consacre lui-même tout entier, ou vous sanctifie lui-même tout entier. » Alors, sais-tu de quoi tu es fait ? Parce qu'il est dit tout entier. Tout entier. En tant qu'être humain, qui es-tu en entier ? Parce qu'après, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, et ensuite il va nous dire ce qui constitue tout notre être, c'est-à-dire l'esprit. Ah, tu es un être spirituel. Ça, c'est la première chose à savoir. L'esprit. L'esprit, quoi encore ? L'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, le siège de la volonté, le siège de l'intelligence. Et ensuite, le corps. Et très souvent, les gens essaient de déterminer qui ils sont en fonction de ce qu'ils voient dans leur miroir. Mes amis, dans ton miroir, tu ne vois que ton corps, mais tu ne vois pas toi. Pourquoi ? Parce que notre corps est un vêtement que nous portons. Nous avons une intelligence. Nous ne sommes pas une intelligence. Certains disent « je le savais ». Non, on a une intelligence. Nous avons des émotions. Nous ne sommes pas des émotions. Et nous avons une volonté. Nous ne sommes pas une volonté, nous avons une volonté. Et la Bible dit, nous sommes un être spirituel. Alors, ça, je sais que vous l'avez déjà entendu. Donc, à l'image de Dieu, nous sommes un être tripartite. Hein. Ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est que tout ce qui constitue notre être, le fait que nous soyons spirituels, que nous ayons une âme, c'est-à-dire des émotions, intelligence, etc. Le fait que nous ayons un corps, mes amis, tout cela est suscité tout le temps, tous les jours. C'est-à-dire que tu n'as pas une... Quand il est dit que tout votre être tout entier, vous réalisez que ces trois domaines dans lesquels il y a la santé, il y a la sexualité, il y a le raisonnement, il y a les émotions, il y a tout ce qui constitue notre être. Tous ces domaines forment un. Ça, c'est important ce que je vous dis. Tous ces domaines forment un seul et ne fonctionnent que comme une entité. C'est-à-dire que celui qui néglige la vie de l'esprit et qui ne s'intéresse qu'à l'âme, à ses émotions, ou alors ne s'intéresse qu'à, par exemple, à développer son intelligence. À travers, il est toujours en train d'étudier. Mais il néglige ce qui appartient à l'esprit. Ça fait quoi? Ça fait quelqu'un de désaxé. Si quelqu'un ne s'intéresse qu'à son travail, par exemple, sa vie sociale, ce qui ferait partie de l'âme et du corps, et qu'il a une grosse déficience dans ce qui est spirituel, il va prendre de mauvaises décisions sur son travail. Si quelqu'un néglige son corps, par exemple par un manque de sommeil, par exemple par une nourriture déséquilibrée, uniquement pour se consacrer à la vie de l'esprit, il est désaxé. Alors très souvent on dit, oui je sais, je suis, surtout si vous êtes dans cette église depuis quelque temps, vous le savez ça. Nous sommes un être spirituel, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Mais en revanche, ce que j'ai vu encore et encore, en général, vous comprenez que il m'arrive de faire des conférences dans d'autres églises, je connais d'autres, des chrétiens depuis longtemps, donc je ne parle pas forcément d'ici, mais aussi ici. Ce que je vois en général, c'est que les gens compartimentent leur vie. Et on va voir que d'après la parole de Dieu, on ne fonctionne pas, on n'est pas fait pour vivre de la sorte. Nous ne sommes pas faits pour dire « je m'occupe de la vie de l'esprit et peu importe ce qui se passe dans mon âme et dans mon corps ». On n'est pas fait pour dire, eh bien, je fais ce que je veux de mon corps et tant pis pour la vie de l'esprit. Mes amis, ça ne marche pas comme cela. Tous les domaines de notre vie constituent un et tous les domaines de notre vie sont interdépendants. Si certains disent, la seule chose qui compte, c'est que je travaille, que je travaille, que je travaille, que je travaille, que je travaille. Il est en train de miser sur sa vie sociale. D'accord? Et que par son travail, il en finisse par négliger sa santé, il y a juste quelque chose qui va être désaxé. Mais très souvent, on dit, ah, du moment que je suis spirituel, peu importe ce que je fais avec le reste. Ou alors, si ce que je fais avec le reste, et ça ne concerne que moi, ça n'a aucune importance. Bien sûr que ça a une importance. Alors, j'étais en Israël, j'ai trouvé un livre il y a peu, et il y en a un, c'était la Bible et la santé. Vous savez, Dieu a quelque chose à dire sur tout, hein, sur tous les domaines qui concernent notre vie. Et il se trouve qu'il raconte qu'après l'effondrement du régime nazi en 1945, l'Église allemande s'est interrogée. S'est interrogée sur le devenir de la société parce que non seulement il fallait relever les ruines fumantes de l'Allemagne, mais il fallait aussi faire en sorte d'aider la société à se débarrasser de l'endoctrinement nazi. Et il se trouve que plusieurs théologiens ont décidé qu'ils allaient prendre les choses en main, parce que la Bible a suffisamment de valeur morale pour relever un pays. Et ils ont fondé ensemble une académie dans le but de repenser les principes fondamentaux de leurs disciplines respectives. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait venir des laïcs, des professionnels, donc pas forcément des croyants, hein, il y avait des théologiens allemands. Il y avait, la première session, ils ont fait venir des instituteurs pour dire, ok, comment pouvons-nous, en élevant la morale, en la remettant à sa place, parce qu'il est évident que le régime nazi était immoral, comment pouvez-vous, vous les professionnels, enseigner les enfants? Et puis ensuite, ils ont fait venir les médecins, en sachant que la médecine avait été pervertie sous le royaume nazi et que le but était de promouvoir une seule race. Donc, les théologiens ont fait venir les médecins en disant, comment pouvons-nous ramener l'ordre, l'espoir et la beauté en Allemagne. Et il y a quelque chose qu'ils ont découvert et que je vais partager avec vous, mais après que l'on ait lu 3 Jean 2. 3 Jean 2. Image numéro 1 d'abord. Beaucoup de chrétiens compartimentent leur vie. Beaucoup de chrétiens disent « Ah ben, ce qui compte, c'est que Dieu s'occupe de ma vie spirituelle. » Et ils classent leur travail dans une petite boîte, comme vous le voyez ici. Et puis, ils mettent les relations dans une autre petite boîte. Et puis, ils mettent une autre, dans une autre petite boîte, ils la remplissent avec leur santé. Là, oui, Dieu, tu peux t'occuper de ma santé. Un autre casier, ils y mettraient peut-être leurs ressources, leurs biens matériels. Dans un autre casier, ils mettraient peut-être leurs loisirs. Dans un autre casier, ils mettraient leurs enfants. Et tout est compartimenté de la sorte. Tous les domaines sont bien distincts l'un de l'autre. Mais dans 3 Jean 2, voilà ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, c'est ce que dit le Seigneur. Voilà, il y a des gens qui disent, oh, je me demande ce que Dieu veut pour moi. Voilà, c'est écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, vous retrouvez cette image avec les casiers et on s'imagine très bien que tous les casiers, imaginons, il y a la réussite dans tous les casiers. Dieu veut que nous ayons la réussite dans notre relation avec lui, dans notre relation avec les autres, dans notre santé, à notre travail, dans tous les domaines. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et au cas où on n'aurait pas compris que la bonne santé fait partie de la prospérité qu'il veut que nous ayons, c'est précisé. Sois en bonne santé. Comme quoi ? Comme prospère l'état de ton âme. Et là, mes amis, il y a quelque chose de différent qui nous est dit. Image numéro 1. Ce que l'on voit ici, c'est que Dieu veut que chaque case de notre vie soit bien remplie. Et quand on lit ce verset, comme quand on a lu tout à l'heure que tout votre être, esprit, âme et corps, on imagine que notre vie est bien scindée. Il y a des compartiments. Mais vous savez ce que nous dit ce verset ? Ce verset nous dit comme. C'est-à-dire, si on pouvait retirer ces petites cloisons qui sont entre les cases, on verrait que c'est complètement interdépendant. C'est-à-dire que Dieu veut que nous sommes en bonne santé, mais ça ne se fera pas sans qu'un autre domaine prospère comme mon âme. Et ça ne se fera pas comme un autre domaine prospère mon esprit. C'est-à-dire mon corps, mon âme et mon esprit sont interdépendants, sont liés les uns entre les autres et je ne peux pas m'attendre à ce que mon corps prospère, ma santé prospère sans qu'il y ait autre chose qui prospère. Je ne peux pas m'attendre à ce que mes finances prospèrent si mon âme n'a pas prospéré. Mais je ne peux pas m'attendre à ce que mon corps prospère si mes finances n'ont pas prospéré. Je ne peux pas m'attendre à ce que ma vie sociale prospère si les choses dans mon esprit n'ont pas prospéré. Tout est complètement lié. Et je vois tellement de chrétiens qui s'intéressent à un domaine de leur vie et qui disent que ça n'a pas d'importance ce qui se passe dans l'autre. Qu'est-ce qu'on voit là ? Dieu dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », c'est-à-dire que Dieu est en train de dire « Je souhaite mettre la vie dans tous les domaines de ta vie » en sachant que tous ces domaines sont liés les uns avec les autres. Esprit, âme et corps, on a scindé les trois domaines. Tous les aspects de notre vie, on les a bien cloisonnés, exactement comme un pamplemousse. Vous savez, quand on coupe un pamplemousse par la moitié. Mais ça n'est pas comme cela que ça marche. Et quelquefois, on dit, oh, ça n'a pas d'importance, ce que je fais avec mon corps, ce qui compte, c'est que je m'intéresse à ce qui est spirituel. Non, la Bible nous dit que non. Tout est lié. D'autres disent, ça n'a pas d'importance ce qui se passe à mon travail, ça n'a pas d'importance ce qui se passe dans mon couple. Mes amis, on ne peut pas cloisonner notre vie, tout est interdépendant. Je vais vous lire, j'aimerais la photo numéro 2, j'aimerais vous lire un passage du livre que je vous ai cité tout à l'heure. Donc c'est un docteur qui parle et il dit « Dans sa diversité, l'homme est une unité. De plus en plus, les différents auteurs en médecine, en psychiatrie ou en théologie s'accordent pour dire que l'homme est une unité indivisible. » Monsieur Carrel se range à cet avis et il dit « Dans la maladie comme dans la santé, le corps et la conscience, » il ne parle pas de l'esprit parce qu'il ne le sait pas, « quoique distinctes, sont inséparables. » Ton être, esprit, âme et corps, c'est indivisible. Tu ne peux pas dire « je fais n'importe quoi avec mon corps » en pensant que ça n'a pas de répercussion sur ton âme. Tu ne peux pas dire « je vais accepter de penser n'importe quoi » en croyant que ça n'aura aucune répercussion sur ton corps. Non mais attendez là, c'est énorme. Encore une fois, ça n'est pas dissociable. Nous sommes un être inséparable. Tant que nous portons notre corps sur nous, il réagit à tout, esprit et âme. Il réagit à tout. Notre corps n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans notre esprit et dans notre âme. Très souvent, on cherche la solution à l'extérieur, donc les gens se bourrent de médicaments, ils se bourrent de médicaments. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je peux continuer ? Alors, dans la pensée biblique, l'hébreu ne saurait concevoir un ensemble comme une simple juxtaposition d'éléments discontinus ou comme une masse arbitrairement divisible. Vous savez que la santé, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Il y a le professeur Victor von Weizsäcker, je ne garantis pas l'accent, qui avait fondé une école appelée médecine anthropologique. Il soutenait que la maladie n'est pas seulement un ensemble de phénomènes biologiques dont la science analyse les mécanismes, mais un élément de la vie personnelle du malade où s'expriment ses crises intérieures et ses conflits sociaux. Tout est lié en nous. Il faut que l'on cesse de compartimenter notre vie. La vie ne se divise pas. C'est-à-dire que ce qui est spirituel, ce qui est matériel, ce qui est travail, ce qui est santé, sexuel, relationnel, tout dans notre vie est interconnecté, interdépendant. Actes chapitre 17, verset 28. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas faire n'importe quoi de sa vie sexuelle et croire que ça n'a pas de conséquences sur ses émotions ou sur sa réflexion. C'est impossible. Et encore moins sur son corps. Quelqu'un ne peut pas faire n'importe quoi avec ses finances. Très souvent, c'est celui où on dit, Seigneur, là, c'est à moi ce domaine. Non, tout est interconnecté. Actes chapitre 17, verset 28, il est dit, c'est en lui, en effet, que nous avons la vie. Nous avons la vie, nous avons la vie, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons la vie. Et quand le Seigneur dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, le Seigneur est en train de dire, je souhaite que ma vie soit dans tous les domaines de ta vie, et alors tu atteindras un équilibre dans ta croissance. Le monde, les gens qui sont sans Dieu ne peuvent pas atteindre cet équilibre, parce qu'ils vont vouloir, par exemple, faire prospérer leur vie financière, et ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler, et ça risque d'être au détriment de la famille ou de la santé. Mais pas avec Dieu. Quand on marche avec Dieu et on comprend comment il procède, il veut que tout en nous croisse, se développe harmonieusement. Et la Bible nous dit que c'est en lui que nous allons trouver cette vie-là. Je vous lis un passage encore de ce livre-là. Dieu s'intéresse à tout l'être et non à un seul aspect. Sinon, il en résulte un déséquilibre avec exagération des autres besoins. Exemple, la recherche effrénée du plaisir comme l'érotisme, ça veut dire pousser à son maximum, autorise l'avortement. Qui eût cru qu'on arriverait à l'avortement avec une recherche excessive du plaisir physique ? Et il continue en mentionnant, même autorise l'euthanasie. Vous savez, dans la pensée humaine, on ne fait pas la connexion entre tous ces points-là. Mais écoutez bien, lorsque les besoins moraux sont laissés de côté, on élimine alors les personnages gênants et innocents. Ces problèmes ne sont pas uniquement sociaux. Aujourd'hui, on parle d'avortement, on parle d'euthanasie. Ça n'est pas juste un problème social. Il dit, mais ils ont leur source au niveau de l'être désaxé. Gabriel Marcel l'atteste, l'euthanasie ne peut être condamnée que si nous voyons en elle une infraction contre le commandement inscrit dans notre conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un verrouille sa conscience ou endurcit sa conscience par un aspect déréglé de sa sexualité, qu'est-ce qui se passe? Ça peut le conduire à approuver l'avortement ou l'euthanasie. Maintenant, on comprend. C'est si indépendant, je vais continuer à vous lire ceci, Monsieur Fender, qui était aumônier, il était ou il est encore, je ne sais pas, mais aumônier des hôpitaux de Paris, il a écrit « Le ministère de la réconciliation », 2 Corinthiens chapitre 5, 18, dont parle Paul, « commence par la réconciliation avec soi-même et entraîne la réconciliation avec les autres. » Écoutez bien, à l'occasion de la maladie, alors ici il est question de la maladie parce que c'était un livre sur la santé avec des médecins et des professeurs, mais c'est pareil pour un dérèglement matériel, c'est pareil pour un dérèglement psychique, un dérèglement au niveau de la volonté, un dérèglement dans nos relations avec les autres. À l'occasion de la maladie, cette disharmonie, un mot nouveau, je ne connaissais pas, mais il dit exactement ce qu'il dit. Cette disharmonie de la personne, donc écoutez bien, à l'occasion de la maladie, cette disharmonie de la personne est mise à nu sans défense. Il arrive même qu'elle soit la cause première de la maladie, ayant rendu inopérant les moyens habituels de défense, incapable d'atteindre l'ensemble de la personne dont les éléments épars ne concourent plus à la cohésion de l'individu. Le mal agit en soi où la division est installée. Et où est-ce que la division est installée? La division est installée là où tu ne laisses pas Dieu aller dans ta vie. C'est-à-dire, si tu as tous les compartiments de ta vie, tu y mets tout ce que tu veux, là où tu n'invites pas la vie de Dieu, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Là où tu n'invites pas la vie de Dieu, où tu te gardes ce compartiment, ça c'est pour moi Seigneur, tu n'y touches pas. Et le mieux c'est que Dieu n'y touchera pas mes amis. Encore une fois, Dieu n'est pas un gourou, Dieu n'est pas quelqu'un qui s'impose à nous. Dieu est quelqu'un qui se présente à nous, qui dit voilà ce que je peux faire pour toi. J'aimerais vraiment te rendre prospère à tous égards. Et quand on dit, ah non Seigneur, pas dans ce domaine-là, t'y touches pas. Que fait le Seigneur? Il dit, ben écoute, d'accord, je te le laisse. Et on voit ici, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un être désaxé. Ça produit une disharmonie. Alors que la volonté de Dieu est claire, bien aimée. Je souhaite imaginer un être humain qui prospère dans tous les domaines de sa vie. Ben, c'est-à-dire, Jésus est notre modèle, il a prospéré dans tous les domaines de sa vie. Adam et Ève, avant la chute, étaient dans cette condition-là. En Christ, nous avons retrouvé cela. Mais quand on garde des compartiments pour nous, on ne se rend pas compte que quand on garde, par exemple, le compartiment travail pour nous, on dit, non, non, Dieu, non, 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 ne va pas me dire, j'ai pas besoin de tes conseils, j'ai pas besoin de te dire où je dois travailler, j'ai pas besoin de te dire comment je gère mon entreprise, j'ai pas besoin de te demander le nombre d'heures que j'y passe, ça c'est moi. Évidemment, personne ne le dira comme cela. Hein? Non, on est quand même plus subtil que ça. Juste, on lui pose pas la question et on prend des décisions. Mais quand on dit au Seigneur, quand même, c'est ce que ça veut dire, Seigneur, concernant mon travail, tu n'y touches pas, on ne se rend pas compte qu'en même temps, on est en train d'empêcher la vie de Dieu d'agir dans notre santé. On ne se rend pas compte qu'on est en train d'empêcher la vie de Dieu de faire prospérer notre intelligence, nos émotions. Rien que dans un travail, dans un compartiment qui est peut-être aussi éloigné, on dit ça n'a rien à voir. Et Dieu dit, tu es indivisible. Image 3, la cohésion de l'être humain. Vous savez, c'est tellement vrai que dans Matthieu chapitre 19, je l'ai donné, Matthieu chapitre 19, tout est lié ensemble. Voilà, on va lire l'histoire. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Oh là là, ah, sur ce dernier commandement, là, vous savez ce que la Bible dit concernant les enfants ? On va prier pour eux tout à l'heure. La Bible dit concernant les enfants, honore ton père et ta mère, et il n'est pas donné de limite d'âge. Tant que tu as un père et une mère, tu l'honores. Et dans le livre d'Éphésiens, la connexion est faite avec un autre compartiment, c'est ainsi que tu prolongeras tous les jours de ta vie. Et parents, quand vous permettez que vos enfants vous parlent n'importe comment, quand vous permettez qu'ils vous traitent comme un pote, quand vous permettez, « Oh, il me parle comme ça !» Non, tu lui permets. Vous ne vous rendez pas compte que ça affecte un autre compartiment qui est la santé. Et quand la santé est affectée, mes amis, en général, le travail l'est aussi. Et quand le travail l'est, les finances le sont. Et quand les finances le sont, le standing de vie, c'est-à-dire le domaine compartiment social l'est. Et quand le compartiment social l'est, en général, le compartiment relation l'est aussi. Et tout s'enchaîne. Indivisible. La vie ne se divise pas. On continue. Le verset... Et il est dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, non mais attendez, là je vous montre un exemple typique. Parce que, imaginez ce jeune, un jeune qui vient voir Jésus et qui lui dit, j'ai une question spirituelle maître. Question spirituelle, compartiment spirituel. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et le Seigneur lui donne une réponse qui apparemment n'a rien à voir avec le schmilblick. Il lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Qu'est-ce que le Seigneur lui fait ? Il est en train de lui parler de son argent dans ce cas-là. Pour lui, c'était son problème. Il avait un problème d'argent. Et on pourrait dire, mais Seigneur, comment se fait-il que d'un point de vue spirituel, tu sois passé à un sujet d'ordre matériel ? T'as sauté des cases, Seigneur. Attends, c'était bien rangé dans le tiroir spirituel. Et toi, tu ouvres un autre tiroir, un tiroir purement terrestre, purement matériel, ce qui nous fait dire que les finances sont d'ordre spirituel. Mais là, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, tu sais, non, la raison pour laquelle tu ne peux pas rentrer, il n'est pas en train de dire que les riches, ça je fais juste une parenthèse, ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il est en train de, parce qu'il y a des, il est en train de dire, c'est le fait de mettre sa sécurité dans l'argent. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas un sou et qui mettent leur sécurité dans l'argent. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est juste une question de cœur. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer là, sans dévier de la prédication et prêcher autre chose, même si c'est tentant, hein, c'est que le Seigneur est en train, on lui ouvre un tiroir d'ordre spirituel et le Seigneur dit non, 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 non. Ta vie est interconnectée, interdépendante. Elle est indivisible. Et moi, je vais te dire, ça n'est pas un problème d'ordre spirituel dont il est question, mais c'est un problème que tu as avec les ressources. Est-ce que vous comprenez ? Alors, il y a un livre qui ne va pas tarder à sortir, qui a été écrit par Jeff Letts. Il dit, l'une des plus grosses erreurs, alors lui, parce que c'est sur les finances qu'il écrit, mais mettez pour n'importe quoi d'autre, peu importe. Il dit, l'une des plus grosses erreurs, c'est un homme d'affaires qui écrit, donc vous comprenez le thème. Hein. L'une des plus grosses erreurs est de dissocier le domaine des finances des autres domaines de la vie. nous avons tendance à compartimenter notre vie, particulièrement en Occident. Nous tentons de gérer nos relations, notre santé, notre vie spirituelle et nos finances séparément. C'est une erreur et c'est contraire à ce qu'enseigne la Bible. Dieu vous voit comme un tout. Contrairement à l'idée reçue, il ne s'intéresse pas seulement à votre condition spirituelle. Il veut s'impliquer personnellement dans vos relations, votre santé et votre vie financière, car les différents aspects de votre vie sont interdépendants. Vous avez été créés ainsi. L'une des leçons les plus importantes que vous puissiez apprendre dans ce livre, dont il est question, est que ces quatre domaines sont inextricablement liés. Se servir de ses capacités et de ses talents pour glorifier Dieu, c'est être un bon gestionnaire. Puisque nous avons été créés à son image, nous devrions conquérir, nous multiplier et être fidèles dans tous les domaines de notre vie. Les hommes d'affaires chrétiens commettent souvent la grave erreur de séparer le spirituel du séculier. Ils gèrent leur entreprise sans lui accorder d'importance spirituelle. Et je vais terminer avec un dernier verset. Je sens qu'il y a une réflexion qui se fait là. Vous inquiétez pas, hein, je ne sais pas quels sont les domaines que vous gardez pour vous, donc relaxez-vous. Mais en tout cas, ça vaut la peine. Parce que en tant que pasteur, au cours de toutes ces années dans le service de Dieu, à servir l'Église, j'ai vu des gens qui gardaient un domaine pour eux et qui croyaient que Dieu allait pouvoir les rendre prospères. Et ça crée des frustrations parce qu'ils disent, mais Dieu, je sais que Dieu veut me guérir, je sais que Dieu veut me rendre prospère. Mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font avec un autre compartiment empêche de libérer la vie de Dieu dans tous les domaines. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, à tous égards, à tous égards. Et là, tu peux voir la vie de Dieu qui passe d'un compartiment à l'autre, qui arrange, qui multiplie, qui accroît, qui rend prospère, qui fait augmenter, qui enrichit. Mais ça ne peut pas, Dieu ne va pas juste cibler un compartiment travail. Et il va dire, peu importe le reste. Non, le Seigneur va regarder comment on gère notre vie physique. Le Seigneur va regarder comment on gère notre vie intellectuelle. Si on passe notre temps à méditer sur la critique que l'autre nous a fait, si on passe notre temps à méditer sur des pensées qui sont négatives, des pensées d'échec, comment veux-tu que le Seigneur réponde à cette augmentation que tu as demandée à ton travail? Interdépendant, mes amis, interdépendant. Bon. Ok, je peux. Avec crainte et tremblement, je vais vous suggérer d'ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 4. Il y a des onctions qui sont libérées quand on peut dire à Dieu, Seigneur, tiens, ce domaine de ma vie, là, je te le donne. Éphésiens 4, verset 15. Donc, en professant la vérité dans la charité. Alors, ici, ce verset-là a à voir avec notre place dans l'église locale. C'est-à-dire que on ne se rend pas toujours compte, mais nous grandissons, nous individuellement, grandissons dans l'église locale en même temps que les autres. Mais ce verset est vrai pour tous les domaines de notre vie, puisque nous sommes une unité. Entité, oui, unité, oui, indivisible, aussi inséparable, aussi. Je ne peux pas séparer ce qui se passe dans mon assiette de mes émotions. Et en plus, aujourd'hui, on sait, par exemple, la médecine nous le dit, que notre manière de manger affecte nos émotions. Non, vous ne savez pas, on a des gens dans le médical ici, on devrait avoir quelques amen quand même, non? Hein? Ben, c'est très simple, mange pimenté toute la journée et au bout d'une semaine, je me demande quelles seront tes émotions. Alors, mais que professant la vérité dans la charité, c'est ce que j'essaie de faire, vous donner la vérité avec amour, Nous croissions à tous égards, à combien d'égards? Spirituellement, Dieu ne s'intéresse qu'à ta vie spirituelle? Non, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le verset, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, que toute la vie, que tous les domaines de notre vie, bien coordonnés et formant un solide assemblage, au lieu d'être désaxés, au lieu d'être, de ne pas avoir d'harmonie dans notre vie. Vous savez, en tant que chrétien, on partage notre foi lorsque l'occasion nous est donnée, on nous pose des questions. Et c'est vrai que si quelqu'un nous voit prospérer dans le domaine de la santé, mais qu'il nous voit ruiner matériellement ou toujours, toujours dans la maladie, il est difficile de dire, tiens, viens à Christ parce que regarde ce qu'il fait. Que toute la vie bien coordonnée, formant un solide assemblage, tire son accroissement, accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Alors, voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Et le titre, vous le comprenez maintenant, « La vie ne se divise pas ». Oui, Dieu veut notre prospérité. On a pris la Sainte Cène tout à l'heure. Vous comprenez que, eh bien, laissez la vie de Dieu se développer dans votre mariage. Laissez la vie de Dieu se développer dans votre vie sociale. Laissez la vie de Dieu agir dans votre corps. Laissez la vie de Dieu dans tous les domaines. La Bible nous invite à ne garder aucun compartiment que nous seuls pourrions gérer. C'est une mauvaise idée. Bien sûr qu'on a le droit. Mais c'est une mauvaise idée parce que ça a une répercussion sur les autres. Oui, nous sommes esprit, âme et corps, mais on ne peut pas séparer. Ce qui se passe dans l'un affecte l'autre. Bien évidemment que si je mets les choses spirituelles à leur place, si ma relation avec Dieu est à sa place, ben ça va affecter très rapidement les autres domaines. On va prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Je prie, mon Dieu, afin que ce que je vois dans les Écritures, eh bien, tu permettes à chacun de le voir aussi. Seigneur, j'ai donné du mieux que j'ai pu ce que je vois, je comprends. Même aujourd'hui, la médecine comprend. Mais ça ne suffit pas, mon Dieu. Tu es l'enseignant de l'Église, Saint-Esprit. Et tu es celui qui enseigne. Père, je prie afin que là où les uns et les autres auraient besoin de ta grâce pour te dire, t'inviter dans un compartiment de leur vie, eh bien, ils la reçoivent parce que tu la donnes. Tu la donnes autant qu'on a besoin. Tu as dit de s'approcher de ton trône. Peut-être que pendant que je prêchais, vous avez vu des domaines de votre vie où vous dites, oulala, j'ai pas réalisé là, mais il y a tel ou tel domaine que j'ai vraiment besoin de laisser le Seigneur régner là. J'ai besoin d'accepter sa vie là, j'ai besoin de le laisser agir. Et sans citer quoi que ce soit, c'est vous pouvez vous lever et dire, Seigneur, voilà, j'ai pris conscience que tel et tel domaine, je ne veux plus le garder pour moi, mais je te demande d'intervenir, je te demande d'y mettre ta vie. Et le fait de vous lever sera une prise de position. Et vous dites, oui, mais je ne sais pas comment. Non, le comment, ça, c'est entre ses mains. Alors, si vous ne vous levez pas, il n'y a aucun problème. Il faut que ce soit sérieux devant Dieu. Et pour ceux qui se sont levés dans ces cas-là, eh bien, on peut répéter cette prière ensemble. Mon Dieu, je suis devant toi. Je n'ai rien à te cacher. Tu connais tous les comportements de ma vie. Et tu sais ce que j'ai gardé pour moi. Celui que j'ai gardé pour moi. Aujourd'hui, j'ai compris que cela impacte d'autres domaines de ma vie et empêche ma prospérité à tous égards. À partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes. Seigneur, je te donne ce compartiment. Je te donne tel domaine de ma vie. Alors, dans votre cœur, vous le citez. Afin, Seigneur, que ta vie règne en moi. Je ne vais plus séparer les éléments de ma vie. Je suis un être indivisible et je me suis entièrement donné à toi. Merci pour ta grâce. Je la reçois maintenant. Merci pour ta sagesse. Tu me la donnes sans reproche parce que je te l'ai demandé. Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Il va y avoir un réveil dans tous les compartiments de ma vie. Et dans le nom de Jésus, je ne mets plus aucune cloison dans ma vie. Tout est interconnecté, interdépendant, rempli de la vie de Dieu, rempli de l'abondance de Dieu. Et je glorifie mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.